Vous voulez bien vous asseoir afin que nous puissions reprendre. Avec Jean Lacoste, que je suis très heureux de revoir, parce que je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a plus de 30 ans. Et à ce moment-là, il y a plus de 30 ans, il était déjà l'éminent traducteur de Walter Benjamin, et le livre qu'il avait traduit, c'était le livre qui a été de nombreuses fois réédité, Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, dont, me semble-t-il, la première édition date de 1979. Il a souvent été réédité, livre très important, livre que tous les baudelairiens ont lu. Mais bien entendu, Jean Lacoste, qui est germaniste, a fait beaucoup d'autres traductions, notamment de Goethe, de Nietzsche, de Cassirer, d'Ernst Bloch, d'Habermas. Son nom est très fortement associé à ces traductions de Benjamin. Il a également traduit Paris, capitale du XIXe siècle. Et ce sont des ouvrages, oui, là aussi, qui ont été édités et réédités. Et puis, il y a un troisième gros livre sur Baudelaire qu'il n'a pas traduit, lui, mais il y a actuellement trois livres importants de Benjamin sur le marché relatif à Baudelaire. Bon, bien entendu, c'est Benjamin qui a insisté le premier sur ce chiffonnier dans Baudelaire, dans l'œuvre de Baudelaire. Et même si, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je ne suis pas toujours ses interprétations, ces ouvrages sont tout à fait fondamentaux. J'ajouterai que Jean Lacoste a été pendant très longtemps associé à la quinzaine littéraire de Maurice Nadeau, dans laquelle il a beaucoup écrit, et il a fait partie de l'équipe qui dirigeait cette revue avant la mort de Maurice Nadeau et après la mort de Maurice Nadeau. Peut-être qu'il faut aussi que je dise que pendant très longtemps, vous avez travaillé au Sénat pendant que vous faisiez ces traductions et ces essais. Peut-être si vous êtes attentif à l'actualité, vous savez que la quinzaine littéraire est aujourd'hui dans la tourmente et qu'une nouvelle revue en ligne est intitulée En attendant Nadeau, à laquelle Jean Lacoste participe avec le reste de la direction, de l'ancienne direction éditoriale de la quinzaine littéraire. Alors je vous recommande d'aller consulter ce site En attendant Nadeau, je crois, pour le moment, est encore ouvert, n'est pas payant. J'ai regardé il y a quelque temps, il était ouvert. Allez le voir et voyez ce qui est présenté dans la lignée de Maurice Nadeau. Alors, je lui donne tout de suite la parole pour la figure du chiffonnier chez Walter Benjamin.
Merci tout d'abord de ces renseignements et de cette publicité pour ce site aventureux, disons. Walter Benjamin, que cherche-t-il avec une telle intensité dans les fichiers de la Bibliothèque nationale, comme on le voit sur cette très belle photo ? Je voudrais ici essayer, à l'aimable invitation d'Antoine Compagnon, de répondre à deux questions. Pourquoi Benjamin, dans les années 30, en vient-il à s'intéresser à la figure du chiffonnier, et pourquoi cette figure est-elle associée par lui si étroitement à Baudelaire ? Et deuxième question, autre question à l'arrière-plan, pourquoi Baudelaire le Baudelaire des tableaux parisiens occupe-t-il une place si importante dans le passage Unverk, c'est-à-dire ce qui a été intitulé par l'éditeur français Paris, capitale du XIXe siècle, c'est-à-dire l'ouvrage inachevé que Benjamin a préparé à la Bibliothèque nationale et dont il a laissé une version manuscrite aux mains d'un conservateur appelé Georges Bataille en 1940. Mais rappelons tout d'abord l'ambition du projet de Benjamin tel qu'il s'incarne dans le livre des passages. Il vise à rien de moins qu'une présentation critique du XIXe siècle, comme le siècle des illusions bourgeoises, et une analyse profondément pessimiste, j'y reviendrai, du triomphe de la marchandise. Mais cette ambition contraste avec l'état actuel du livre, tel qu'il a été publié aux éditions Zurkamp en 1983 et qui est un champ de ruines, un immense amas de fiches et de notices, de citations, sans autre ordre que quelques listes en apparence, un ensemble à reconstruire, comme les pensées de Pascal a dit une fois un commentateur avisé. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Au-delà de sa dimension historique et sociologique, ce projet ambitieux, né, il faut bien le dire, sous le signe de la catastrophe politique, puisqu'on est dans les années 30, représentait aussi pour Benjamin une archéologie personnelle de ce siècle qu'il avait vu naître en 1892. On pourrait même dire, et j'y reviendrai, que ce projet est au fond autobiographique. Si Enfance berlinoise est le portrait, lui aussi laissé en fragments, d'une enfance à Berlin dans une famille, riche famille juive assimilée vers 1900, donc comme le dit le sous-titre, le portrait d'un enfant enchâssé dans le XIXe siècle, le livre du passage est en son cœur le portrait d'un poète et d'un écrivain enchâssé dans le siècle et qu'il y a laissé une claire empreinte. On lit dans les passages, à propos de Baudelaire, mais c'est vraiment l'intention primitive, il s'agit de montrer comment Baudelaire est ancré dans le XIXe siècle. L'empreinte qu'il y a laissée doit apparaître aussi nette et intacte que celle d'une pierre que l'on aurait délogé. Ce qu'il faut comparer avec le souvenir d'une séance de photographie dans Enfance berlinoise, dans lequel Benjamin dit ceci: « Je me suis défiguré à force d'être semblable à tout ce qui est ici autour de moi. J'habitais le XIXe siècle comme un mollusque habite sa coquille et ce siècle maintenant se trouve devant moi, creux comme une coquille vide. Je la porte à mon oreille. » Il écoute le XIXe siècle comme une coquille vide. La même image, un être qui a disparu, l'enfant, le poète, et qu'on ne peut retrouver que par les traces et les empreintes qu'il a laissées, par la sédimentation paralysante qu'il a figée. C'est pourquoi ce projet très ambitieux repose sur une méthode très particulière qui a peu à voir avec ce qu'on peut appeler la tâche ordinaire de l'historien qui, bon an, mal an, s'efforce de restituer ce qui a eu lieu. La méthode de Benjamin, et on l'a critiquée pour cela, repose sur la citation, sur le montage, sur l'actualisation des textes. La citation n'est ici qu'un fragment arraché à son contexte, voire parfois même en contradiction apparente avec lui, mais cette fragmentation qui est à l'œuvre dans les textes de Benjamin doit servir à mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler, en reprenant un terme emprunté aux écrits scientifiques de Goethe, un « ou phénomène », c'est-à-dire un phénomène du domaine sensible, parmi d'autres phénomènes, mais un phénomène jugé primitif, originaire, comme c'est suggéré en allemand par le préfixe « ou », un phénomène qui est susceptible d'infinies variations, de développement, comme un thème musical, simple en apparence, mais qui donne naissance à de multiples variations. Les citations arrachées aux livres de la Bibliothèque nationale servent à développer et à cerner ces notions benjaminiennes si particulières, si prenantes et si séduisantes, la mode, les barricades, les passages, notamment les passages parisiens, la foule. Elles relèvent ces notions de l'empirique, du domaine empirique, si l'on veut, on peut faire une histoire architecturale des passages, mais ce sont aussi des catégories qui organisent tant bien que mal le livre, qui ne sont ni des faits historiques à proprement parler, ni des concepts philosophiques très élaborés, mais quelque chose qui est doté d'une forte aura pragmatique, dit Adorno, une force d'exposition et d'interprétation. J'essaierai d'en donner un petit exemple tout à l'heure. Mais il est temps de se trouver la fiche qui suit. Oui, je cherche la petite flèche. Ah oui, ben voilà, parfait. Baudelaire. Il est temps maintenant d'évoquer l'émergence du chiffonnier comme ce que j'appellerais l'index social, un index social dans le Paris du Second Empire chez Baudelaire. Comment la figure du chiffonnier va-t-elle devenir centrale dans la vision benjaminienne du XIXe siècle et en particulier dans sa vision de la poésie baudelairienne? Quel est l'enjeu? On sait, enfin, on peut rappeler que Benjamin avait commencé à travailler dans les années 20, toujours séduit par la capitale Paris, à ce qu'il appelait une féerie dialectique, sous l'influence des surréalistes, du paysan de Paris, d'Aragon. Mais il va vite abandonner cet univers féerique, cette lecture un peu poétisante et anecdotique, pour aller, dans les années 30, comme on sait, vers une radicalisation politique de son projet parisien, sous la pression des circonstances historiques sur lesquelles je ne reviens pas, et de la précarité extrême, j'insiste là, la précarité extrême de sa propre situation, écrivain allemand, juif, en exil à Paris. Cependant, la figure du chiffonnier n'apparaît pas d'emblée dans les notions principales qui doivent organiser à l'origine le projet des passages. On assiste d'abord dans ce projet à ce que j'appellerais l'émergence du cas Baudelaire. Dans un exposé que Benjamin rédige en 1935 pour présenter son projet de grand livre sur les passages parisiens à l'Institut de recherche sociale, le chiffonnier ne figure pas dans la liste des six personnes ou six personnages qui sont associés, étrangement d'ailleurs, à des réalités sociales qui semblent ensemble incarner le XIXe siècle. Je rappelle cette liste, Fourier et les passages, Daguerre et les panoramas, Granville et les expositions universelles, Louis-Philippe et l'intérieur, Baudelaire et les rues de Paris, et Haussmann et les barricades. Six modalités de l'espace social, mais sans chiffonnier. Baudelaire lui-même n'est qu'un nom parmi les six, même si Benjamin a depuis longtemps une longue affinité avec Baudelaire, puisqu'il a traduit les tableaux parisiens en octobre 1923 et écrit à cette occasion son fameux essai sur la tâche du traducteur. Mais peu à peu, dans la masse des citations, le chapitre consacré à Baudelaire et les rues de Paris va occuper une place centrale, selon un processus assez habituel chez Benjamin, de sélection, de miniaturisation, de concentration de l'étude, un procédé un peu de potentialisation homéopathique qui fait qu'on se concentre de plus en plus vers le détail pour comprendre l'ensemble. Ainsi, l'écrasante réalité historique du capitalisme à son apogée devient, sous cette forme concentrée, par métonymie, le tout, la partie pour le tout, le XIXe siècle, qui devient, chez Benjamin, Paris, qui à son tour est comme résumé par le phénomène architectural à l'époque totalement négligé des passages. Et les passages qui renvoient par des médiations mystérieuses, l'opposition entre passage et rue, à Baudelaire, qui devient, par l'association poète chiffonnier, dans un fragment de vers, le chiffonnier se cognant au mur comme un poète, dans le vin des chiffonniers. Donc Benjamin en vient à envisager de substituer à ce projet plus vaste de livre des passages un livre autonome sur Baudelaire. Et la première présentation rédigée de ce chantier Baudelaire apparaît dans le Paris de Baudelaire du Second Empire, le Paris du Second Empire chez Baudelaire, pardon, un texte écrit en 1938, mais publié pour la première fois dans son intégralité en 1969 et traduit en français en 1979 et repris récemment en 2013 dans un fort volume auquel vous faisiez allusion par Giorgio Agamben. Rappelons la genèse de ce texte qui va mettre Baudelaire au centre du dispositif et par la même occasion accorder au chiffonnier une place éminente dans la construction du livre en cours. En janvier 1938, et c'est peut-être ça qui explique la divergence d'opinion ou d'interprétation que nous pouvons avoir de la politique du chiffonnier chez Benjamin, en janvier 1938, un tournant décisif va s'opérer à la suite d'une lecture chez Benjamin. Benjamin en fait part dans sa lettre du 6 janvier 1938 à Horkheimer, une trouvaille rare, dit-il, dont l'influence sur son travail sera déterminante. Il s'agit de l'éternité par les astres, une spéculation cosmologique écrite par Louis-Auguste Blanqui, c'est-à-dire l'insurgé, le grand révolutionnaire, écrite dans son ultime prison de la baie de Morlaix, le fort du Taureau. Il s'agit de ce que Benjamin appelle une vision infernale de l'ordre social, dont Blanqui doit admettre la victoire au soir de sa vie. C'est, dit Benjamin, la plus terrible des accusations portées contre une société qui jette au ciel comme projection d'elle-même cette image du cosmos. La notion, assez caractéristique du 19e en fait, de l'éternel retour se retrouve ici réactivée comme la clé de l'oppression sociale et de l'imposture du progrès, ce mythe du 19e siècle. Benjamin trouve là, me semble-t-il, sa propre vision de l'histoire, très pessimiste. Il voit en Blanqui, me semble-t-il, comme une sorte d'antidote radical à l'optimisme social-démocrate du progrès, incarné en particulier par sa bête noire dans les textes sur Baudelaire, c'est-à-dire par Hugo. Hugo qui disait « Le progrès, c'est le pas de Dieu ». Au contraire, Benjamin, on le sait, conteste cette vision de l'histoire, refuse d'adhérer à cet esprit du progrès de l'humanité en marche. Cela apparaît très nettement dans les thèses sur l'histoire qu'il écrit en 1940, à la fin de sa vie, et c'est là qu'il devine un rapport secret des affinités entre le Baudelaire et le Blanqui de l'éternité par les astres. Une commune méfiance envers la notion de progrès. Dans ce schéma, disons d'amateur, vous pouvez voir comment va apparaître la construction du livre sur Baudelaire et en même temps comment va apparaître dans le chapitre sur la Bohème le chiffonnier. En effet, en avril 1938, Benjamin indique dans une lettre à Horkheimer les trois parties qu'il envisage pour son livre sur Baudelaire. La première, idées et images. Ensuite, antiquité et modernité, avec la tâche héroïque du poète, qui sera de donner forme au moderne. Et troisièmement, le nouveau et le retour du même, la marchandise comme accomplissement de la vision allégorique chez Baudelaire. La figure de Baudelaire, rapprochée, comme je l'ai dit, de Blanqui, va jouer désormais à ce stade un rôle décisif dans l'élucidation du XIXe siècle. Benjamin écrit le 16 avril 1938, donc toujours dans cette lettre capitale, « La signification tout à fait exceptionnelle de Baudelaire tient en ceci que le premier, il a appréhendé la force productive de l'homme aliéné. Il l'a reconnue et par la réification, il lui a donné plus de force. Il s'agit d'apporter un éclairage matérialiste sur l'histoire littéraire du siècle dernier. » Et la présence du chiffonnier va être l'index de cette ambition politique du projet des passages. En effet, la deuxième partie, donc antiquité et modernité, c'est ça qui deviendra le pari du Second Empire chez Baudelaire, comporte trois chapitres, la bohème, le flâneur et la modernité. Et c'est dans le chapitre sur la bohème qu'apparaît le chiffonnier. C'est donc la notion de bohème qui va autoriser la transition entre Baudelaire et les chiffonniers, et une notion que, me semble-t-il, Benjamin, qui est en fait si peu marxiste au fond de sa pensée, a trouvée chez Marx. Une bohème vue au travers de la description que Marx donne de la bohème dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, publié en 1852 dans Die Revolution. Une bohème qui est caractérisée par non pas un engagement politique, mais par une forme de révolte stérile une rage impuissante et manipulée. Le chiffonnier apparaît dans les pages que Marx consacre à la bohème politique et notamment à cette société du 10 décembre qui fournit à Napoléon III ses troupes d'agitateurs et prépare le coup d'État de 1851. Et Marx, ici, écrivain plus que théoricien, cède à une rhétorique de l'accumulation et de la collection avec une virtuosité indéniable. Mais bon, je lis ce morceau de bravoure. Donc, dans cette bohème, on y trouvait des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des galériens en rupture de banc, des filous, des charlatans, des lazzaroni, des pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des tenanciers de maisons publiques, des portefeuilles, des écrivassiers, des joueurs d'orgue, des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants. Bref, toute cette masse confuse que les Français appellent la bohème. Ces aventuriers déclassés, ces conspirateurs sans conscience politique, cette bohème de marginaux, ces catilinades bonapartistes, ils relèvent tous, aux yeux de Marx, me semble-t-il, d'un individualisme petit-bourgeois faussement révolutionnaire, sans avenir, sachant que seul le prolétariat et son avant-garde pourront former une classe révolutionnaire. Et c'est ainsi que le chiffonnier apparaît chez Benjamin au printemps 38 dans un schéma qui tente de définir le spectre social du Second Empire. Et dans ce spectre social, Benjamin énumère les variantes de la bohème, le conspirateur, le chiffonnier et le littérateur. Le spectre social qui se met en place est donc constitué de personnes en marge de la société bourgeoise, voire en révolte, avec au centre le chiffonnier qui incarne la plus abjecte misère, dit Benjamin, qui reproduit dans son livre les budgets, peut-on vraiment parler de budget ? Mais les budgets que les sociologues du Second Empire, Frégier, etc., ont pu établir de la vie de misère extrême et de survie de ces chiffonniers. Mais Marx l'intègre à un mouvement beaucoup plus bigarré de bohème politique que Benjamin lui-même va rapprocher de la bohème littéraire et donc de Baudelaire. Donc on a trois bohèmes qui sont autant de révoltés héroïques dans la défaite, de vaincus de l'histoire, en opposition, bien sûr, au flâneur qui, lui, vit dans le luxe de l'illusion fantasmagorique des passages, mais aussi en opposition au héros de Marx, c'est-à-dire le prolétaire conscient et organisé. En plus de la bohème, comme notion qui fait le lien entre le chiffonnier et Baudelaire, un élément essentiel sera, mais ça je vais faire très rapidement, l'ivresse. Vous avez évoqué effectivement l'assommoir, le texte l'assommoir des chiffonniers décrit par Jules Vallès dans ses tableaux parisiens. Et c'est vrai que l'ivresse du chiffonnier est un thème récurrent et qui contraste, si je puis dire, avec le sérieux en redingote petits bourgeois, des révolutionnaires de profession qui sont responsables avant l'heure. L'ivresse devient le marqueur social du chiffonnier, un être asocial dont la révolte est à la fois radicale et vaine, une révolte vécue dans l'instant, sous le coup de l'ivresse, et inscrite dans un temps hors du temps social, des horloges, des calendriers, etc. Dans le vin des chiffonniers, qui a été longuement exposé et analysé, le chiffonnier exprime, grâce à l'ivresse que lui procure le vin, une rage rêveuse, qui est d'une manière générale celle que Benjamin attribue à la bohème tout entière, une ivresse de l'impuissance. Et c'est peut-être là que se trouve peut-être notre divergence, mais la divergence entre l'approche de Benjamin et celle que vous présentez, dans la mesure où ce que semble dire Benjamin, c'est qu'il y a là une position, si l'on veut, politique de rage impuissante, qui ne se retrouve ni chez les démocrates bourgeois, ni dans les formations plus organisées de la classe ouvrière. Et comment Benjamin introduit-il le thème du vin et de l'ivresse dans la bohème ? Par la petite porte, si je puis dire, c'est-à-dire par la barrière de l'octroi et la taxation du vin, avec ces rendez-vous des conspirateurs, effectivement, dans les estaminets proches de la barrière, comme la casserole donc, que vous avez évoquée, qui est un cabaret de la barrière de Clichy et qui tire son nom, évidemment, de cette eau de vie dans une casserole à 2 centimes, si j'ai bien compris, qui était offerte aux chiffonniers. Donc, Benjamin, ça a été dit, met cette question du vin des barrières au centre de son analyse du poème de Baudelaire, Le vin des chiffonniers, selon une démarche en apparence, disons, matérialiste, voire d'un marxisme assez lourd, puisqu'il s'agit de mettre en rapport directement un poème et un problème fiscal, mais qui vise, me semble-t-il, à mettre en vedette surtout la rage asociale du chiffonnier et de Baudelaire et de Walter Benjamin d'une certaine manière. Le chiffonnier est l'ultime figure de la misère humaine, incarnation d'un lumpenprolétariat en haillons qui se charge justement de récupérer les haillons et les vieux papiers. Mais grâce au vin, il connaît une forme d'exaltation de la revanche, le rêve d'une victoire, une illusoire consolation pour celui qui reste dans la fange. Blanqui, je vous l'ai dit, avait mis en évidence l'éternel retour de l'oppression sociale, les défaites successives des révolutions, et l'ivresse du chiffonnier fait de la révolution et de ses glorieux projets une fantasmagorie irréelle. Je cite Baudelaire, « Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes. L'échec historique et la misère sociale sont transfigurés dans une sorte de apocatastase alcoolique. Les chiffonniers, je cite, apportent la gloire au peuple ivre d'amour, mais ce n'est en fait qu'une double ivresse illusoire, ce n'est qu'un délire. Alors, est-ce à dire que la révolution est une illusion, une vaine entreprise ? Faut-il en rester à ce constat d'échec ? Un texte en prose apparenté au vin des chiffonniers, dans Du vin et du haschich de 1851, complète le poème sur un point important. Il fait lui aussi l'éloge des consolations impériales qu'apporte le vin, mais il introduit d'autres affinités, et cette fois c'est avec le collectionneur, avec l'historien et le poète. J'indique qu'il s'agit là d'une version de ce manuscrit qui aurait été donnée par Baudelaire à Daumier pour les nombreuses dessins de chiffonnier qu'il aurait fait. Voilà, 32 vers. C'est une autre version. Voici ce texte déterminant, à mon sens, qui joue ici, dans le Paris du Second Empire chez Baudelaire, je m'expliquerai, une sorte de pierre d'attente. Je le lis. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité et de jouissance. Vous aurez noté à quel point ce texte est riche de significations. Et le vocabulaire de Baudelaire suggère de nouvelles identifications. Et notamment, ça Benjamin le développe justement, l'affinité entre le poète lui-même et le chiffonnier. Et il ajoute même que c'est une forme de prédiction quant au statut social du poète qui est destiné, par l'évolution de la société et de l'imprimerie, à devenir lui-même chiffonnier. Loin d'être un mage romantique qui guide l'humanité, on se souvient des pages de Paul Bénichou là-dessus, loin d'être donc un mage romantique comme à la manière de Hugo, le poète est présenté comme un chiffonnier qui trébuche à chaque pas dans sa démarche saccadée, dans sa quête maladroite des rimes et qui reste prisonnier d'une fantasmagorie de revanche sociale. Mais en même temps, le chiffonnier collectionne des fragments. Il effectue un choix intelligent Il compulse les archives. Bref, il agit en historien comme Benjamin lui-même, une sorte d'archiviste du XIXe siècle. Quand Benjamin cite ce texte de Baudelaire, je dirais même qu'il insère dans son livre une sorte d'autoportrait. Il prépare la suite, c'est-à-dire une autre conception du chiffonnier. Dans l'été 38, alors qu'il séjourne au Danemark, chez Brecht, Benjamin rédige donc cette partie centrale, Antiquité et modernité, du futur livre sur Baudelaire qui va s'intituler Le Paris du Second Empire chez Baudelaire. Le 28 septembre 1938, la veille des accords de Munich, il ne faut jamais oublier ce contexte, Benjamin envoie à Horkheimer, qui se trouve encore à Paris, cette partie du livre en cours, une partie du livre en cours, pardon, sur Baudelaire. Et il l'accompagne d'un avertissement qui n'est pas inutile. Il est impossible de saisir, à partir de cette seconde partie, les bases philosophiques du livre dans sa totalité. C'est un envoi vital pour Benjamin, compte tenu de la précarité de son existence d'exilé à Paris et des menaces de guerre. Il frappe à la porte de l'Institut de recherche sociale. Et oserais-je dire que le chiffonnier, paradigme de la misère, devient ou est devenu le compagnon de misère du poète, sans doute, et le frère de l'historien. Comment ne pas penser que Benjamin, en faisant du poète lui-même une sorte de chiffonnier, un membre révolté de la bohème, glisse ainsi à direction de l'Institut de recherche sociale une sorte de message. Lui-même, en extrême précarité, exprime une révolte vaine et radicale, comme Blanqui, par opposition, me semble-t-il, aux marxistes et aux sociologues installés que sont malgré tout, quelle que soit leur proximité, Horkheimer et Adorno, dont il dépend financièrement. Et on trouve dans le Charles Baudelaire un aveu qui est dissimulé dans les données de la sociologie, quatre lignes, mais qui me semble comme être le noyau caché de ce texte. On ne peut naturellement pas considérer que le chiffonnier fait partie de la bohème, mais de l'écrivain au conspirateur de profession, celui qui appartenait à la bohème pouvait retrouver dans le chiffonnier une part de lui-même. Retrouver dans le chiffonnier une part de lui-même. Son message est clair, ma situation est presque celle d'un chiffonnier. Donc, ce texte est parti pour Paris et pendant qu'il chemine, je vais lire tout simplement devant de vous un texte qui me semble extraordinairement benjaminien, même si Benjamin ne l'a pas commenté véritablement, même s'il le connaissait, dont il a peut-être été déjà question, c'est le Chiffonnier de Paris de Félix Piat, un drame en guenilles écrit par Piat en 1844 et joué initialement au Théâtre de la Porte Saint-Martin en 1847, et qui met en scène un chiffonnier appelé Jean, et qui, ici, je me contenterai de lire ce texte, mais qui est profondément benjaminien, comme vous avez pu le voir, se vide sa hôte après sa nuit de travail. Faisons l'inventaire de ma nuit, dit-il. Dire que j'ai tout Paris, le monde, là, dans cet osier. Mon Dieu, oui, tout passe, la feuille de papier, tout finit tôt ou tard, là. La hôte, à la hôte, l'amour, la gloire, la puissance, la richesse, la hôte, toutes les épluchures, tout vient. Tout tient, tout tombe, tout est chiffon, haillon, tesson, chausson, guenillon. Et dire que tout cela refera du beau papier poulet, de belles étoffes, grande dame, et que ça reviendra là encore et ainsi de suite, jusqu'à l'extermination. Folie d'hier, superbe regaton, c'est là votre humiliation. C'est le rendez-vous général, c'est la fosse commune, c'est la fin du monde. C'est plus que la mort, c'est l'oubli. Lumière de révolution ou lumière d'apocalypse, lors des journées de février, Frédéric Lemaître, qui joue le rôle de Jean, tire, avec le succès qu'on imagine, une couronne de sa hôte. Mais avançons ici avec la photo d'Adorno, justement. Nous sommes loin de la bohème. Benjamin a connu une erreur tactique en ne fournissant à Horkheimer et à Adorno qu'une description sociologique du Second Empire. sans donner les perspectives théoriques qui seront ouvertes plus tard et qu'il a en fait déjà, Benjamin, déjà formulées. Et Adorno va soumettre ce texte à une critique détaillée et dévastatrice, en particulier viser la présentation du vin des chiffonniers, dont il devine d'ailleurs l'importance stratégique dans la conception de Benjamin. Et Adorno s'explique longuement dans une lettre complexe du 10 novembre 1938, à laquelle Benjamin va répondre diplomatiquement le 9 décembre. Il exprime d'abord sa déception, je vais rapidement là parce que ça mériterait une conférence à soi seul, mais il exprime d'abord sa déception face à cet envoi, parce que lui connaît l'orientation générale du projet des passages, et il comprend bien qu'ici, Benjamin est très en retrait de sa main, si vous voulez. Il comprend l'absence de justification théorique des différentes catégories qui organisent le texte. Il comprend qu'il s'agit là, de la part de Benjamin, d'une sorte d'ascétisme, une manière de ruse, de diplomatie. Mais il craint surtout que le texte de Benjamin soit inacceptable parce qu'il se contente de présenter des données et qu'il ne soit perçu que comme de la sociologie empiriste et positiviste. Comme il dit, c'est du positivisme magique et l'exposition étonnée de la facticité. Adorno est utilise l'allemand avec beaucoup d'ingéniosité. Le risque est qu'on se trompe sur l'intention de Benjamin, sur ce que j'ai évoqué au début, et qu'on ne voit que l'esthétisation de son travail. Marx, sans doute, occupe une place importante avec l'interprétation matérialiste que j'ai rappelée entre le vin des chiffonniers et la taxation du vin et la création des barrières. Mais c'est précisément, dit-il, ce matérialisme immédiat, anthropologique, même romantique, des rapports entre l'économie et la poésie, qu'Adorno refuse, comme il semble craindre d'ailleurs à demi-mot l'influence de Brecht et de son marxisme, disons, à gros sabots sur Benjamin. Donc il reproche à Benjamin deux choses finalement, en même temps, de donner des gages au positivisme sociologique des Américains et en même temps de vouloir payer son tribut au marxisme orthodoxe de Brecht en faisant mine de croire à des choses auxquelles il n'est pas, dont il n'est pas convaincu. Et il dit notamment quelque chose qui est sans doute très, très juste et à laquelle vous avez fait allusion, c'est que le chiffonnier est certes la limite inférieure de la pauvreté. Mais il faudrait mieux définir, dit Adorno, la fonction capitaliste du chiffonnier. À savoir qu'avec le chiffonnier, on assiste à une transformation de l'ancienne mendicité qui était, dans toutes les sociétés traditionnelles, respectée de manière immémoriale et qui maintenant devient, avec le chiffonnier, totalement intégrée au cycle de la marchandise. Et c'est quelque chose qui n'est pas sans lien non plus avec la prostitution et la marchandisation de ce qui est le plus intime, c'est-à-dire la sexualité. Adorno met le doigt sur quelque chose d'un point central qui trouble évidemment Benjamin, pauvre Benjamin, qui attend l'aide de l'Institut de recherche sociale. La réponse est donc désastreuse pour la situation matérielle de Benjamin, mais profitable, il faut bien le dire, à la force théorique de son travail. Une fois le choc passé, Benjamin va profiter de ses critiques pour donner enfin la véritable armature de sa lecture de Baudelaire, de tenter une construction avec les fragments pour recycler, si je puis dire, dans un processus destiné à former un texte continu comme l'espace des passages, comme on en voit un exemple ici. Et ce sera l'essai sur quelques thèmes baudelairiens, le second et important essai baudelairien de Benjamin, qu'il envoie en août 39, à New York et qui sera publié en 1940 et traduit bien ultérieurement par Maurice de Gandillac. Le chiffonnier était, je disais, le compagnon de misère de Benjamin dans le premier texte. Ici, le poète moderne va être identifié au chiffonnier et là, à un degré beaucoup plus profond, parce qu'ils partagent une même expérience. Il ne s'agit plus de la même précarité sociale, mais d'une même expérience historique. On pourrait même dire, si on était heideggerien, historial, quelque chose qui marque une césure dans la civilisation. Benjamin, je vais aller très vite sur cet aspect, mais qui est quand même vraiment très important. Benjamin part du fossé, de l'abîme qui se crée au XIXe siècle entre le poète lyrique, le dernier étant, dit-il, Lamartine, et son public. Et d'où vient ce divorce ? D'une transformation historique de l'expérience humaine, de quelque chose qui est donc là d'une ampleur beaucoup plus grande que le phénomène social et politique du capitalisme. On assiste en effet, d'après Benjamin, à la fin de l'expérience authentique, ce qu'il appelle Erfahrung, qui se transmettait par la tradition, par la narration, celle qui est au cœur de la mémoire involontaire. Cette expérience désormais cède la place à ce qu'il appelle l'expérience vécue, enfin ce qu'on a traduit par expérience vécue, Erlebnis, qui est propre, dit-il, à la grande industrie, celle du choc, et qui est associée à la mémoire volontaire qui va de pair avec une conscience perpétuellement aux aguets, celle de l'habitant des grandes villes qui doit parer au choc comme un escrimeur, comme un chasseur dans la jungle urbaine, c'est une métaphore si très fréquente, ou comme le chaland coudoyé par les foules. La thèse de Benjamin, c'est que l'expérience vécue du choc sera la norme de la poésie baudelairienne, son objet secret, et cela y compris dans le rythme même de la versification. Rappelez-vous le poème « Une passante » dans les tableaux parisiens, « La rue assourdissante autour de moi hurlait ». Le choc, comme forme prépondérante de l'expérience et de la sensation, assimilable à une sorte de traumatisme, introduit des discontinuités dans le temps, une rupture dans la conception du travail, une cassure dans la transmission des connaissances. Le flâneur se trouve exposé au choc, comme l'artisan face à la machine. Ce sont deux types qui sont voués à se transformer et même à disparaître, tandis qu'apparaissent des formes modernes d'existence, comme le joueur ou l'homme frappé de spleen, fasciné par le temps vide, comme dans le poème « Horloge ». C'est le règne de l'acédia, dit Baudelaire, la maladie des moines, le taedium vitae, le dégoût de la vie. Et en opposition au spleen, l'idéal, selon Baudelaire, sera le domaine de la mémoire involontaire et des correspondances, toujours assimilées à des souvenirs, à la vie antérieure. Mais la beauté moderne sera, elle, marquée par l'expérience vécue du spleen et de la mélancolie. Ce sont les souvenirs qui confère l'aura qui s'attache à l'enfance et au passé. Et donc, dans ce texte de 1939 et dans tous les fragments qui s'y rapportent, Benjamin approfondit le lien entre le chiffonnier et la marchandise grâce à la notion d'allégorie. Et désormais, sa position sera explicitement critique envers la figure du flâneur, alors que bien souvent, on considère que Benjamin a réhabilité le flâneur qui erre dans les passages. Au contraire, toute sa pensée, notamment dans ce second essai, consiste à opposer le chiffonnier Baudelaire, si l'on veut, dans la rue, au flâneur qui, lui, est dans le passage, dans le luxe protégé des passages. Le poète et le chiffonnier sont proches, non plus à cause, comme je l'ai dit, de leur commune misère, mais parce que ce sont des allégoriciens, dit Benjamin. Baudelaire avait fait de l'allégorie l'armature de sa poésie. L'épigraphe du premier exposé sur Baudelaire en 1935 offrait déjà une première clé avec ce vers de Baudelaire en exergue « tout pour moi devient allégorie ». Et Benjamin souligne en particulier, je simplifie, Benjamin souligne en particulier le caractère destructeur et purificateur de l'allégorie. Elle dissipe l'apparence, la belle apparence des symboles, elle impose l'expérience traumatisante, le choc de la fugacité, de la ruine qui engendre le spleen, cette mélancolie sans lointain propre à la modernité selon Baudelaire. L'aura s'est dissipée dans l'expérience vécue de la vie moderne et comme je l'ai dit, les correspondances sont contenues dans les souvenirs. Et au cœur du rapprochement entre poète et chiffonnier se trouve, en effet, la parenté entre la marchandise et l'allégorie. Et ça, c'est une idée que suggère Adorno et que Benjamin reprend et qui est un peu le cœur de sa conception de Baudelaire et de la poésie baudelairienne. Pourquoi ? ce n'est pas évident au premier sens, mais la relation arbitraire, c'est ça qui caractérise sa modernité, entre le signe, l'objet et la signification dans l'allégorie moderne, correspond, dit Adorno et Benjamin, à la relation tout aussi arbitraire qu'il y a entre une marchandise et son prix. Autrement dit, il y a vraiment entre la marchandise et l'allégorie une affinité de structure. Pour le chiffonnier, on l'a dit concrètement, on l'a montré avec des documents, tout devient marchandise, comme pour le poète baudelairien, toute chose peut devenir allégorie, tout au lieu de se contenter des symboles de la tradition. Benjamin dit « Les allégories représentent ce que la marchandise fait des expériences qu'ont les hommes de ce siècle. » Le chiffonnier est devenu un allégoricien qui est, comme Benjamin dit, dans son élément avec la marchandise, comme le poète doit être dans son élément avec le monde moderne, c'est-à-dire un monde dominé par l'allégorie, la mode et le fétichisme de la marchandise. Et Benjamin va développer de façon critique le thème du flâneur, l'opposé du chiffonnier, dans un exposé qu'il donne de son travail en français à Pontigny en mai 1939, dont on voit ici une brève et précieuse image. Et que dit-il en conclusion de ce dernier exposé en français ? La déchéance de l'aura. La déchéance de l'aura constitue le thème le plus personnel de Baudelaire. Ainsi se trouve fixé le prix de la beauté et de l'expérience moderne. La destruction de l'aura par la sensation du choc. Ainsi est assignée, si vous voulez, à la poésie baudelairienne une fonction unique peut-être, et c'est peut-être là contestable, qui est de rendre compte de l'omniprésence de la marchandise et de l'omniprésence du choc et du traumatisme dans le monde moderne. Il confie à Baudelaire la tâche, encore une fois, unique de rendre compte de ce phénomène, comme je disais pompeusement, historial, c'est-à-dire de civilisation, qu'est la destruction de l'aura des choses et de leur caractère, en disant un mot, de leur caractère sacré. Soulignons pour finir cette course autour de Benjamin et de Baudelaire par souligner tout de même la cohérence, malgré tout, du projet de Benjamin. Écrit à une époque de catastrophe, il présente un peu à sa manière une écriture de la catastrophe, fragmentaire, un puzzle sans modèle qui fait et qui rend son interprétation toujours contestable. On ne peut pas nier qu'il y ait un lien intime entre la méthode suivie dans le passage, dans le livre des passages, c'est-à-dire la fragmentation, la citation, le montage, et ce qui est l'objet même du livre, la transformation de la vie en marchandise, le devenir chiffonnier des hommes. Ça peut donner un peu d'actualité, et notamment des artistes sans public, mais aussi des chiffonniers sans hôte ni croc. Tout simplement, la fragmentation des vies, le livre des passages comme hôte du chiffonnier. Et je terminerai sur une ambiguïté. Il ne s'agit pas de Benjamin, mais de son fils Stéphane, à qui est dédié Enfance berlinoise. Oui, je terminerai sur une ultime ambiguïté. Le chiffonnier en allemand est un Lumpensammler, c'est-à-dire qu'il est issu du Lumpenprolétariat, du prolétariat en haillons, mais c'est aussi un Sammler, un collectionneur. Il y a un roman de Goethe par lettre qui s'appelle comme ça « Le collectionneur et les siens » de Sammler. Mais y a-t-il une affinité véritable entre les deux activités ? Les grands collectionneurs, note Benjamin dans son article sur le collectionneur allemand Edouard Fuchs, un spécialiste de Daumier, se distinguent le plus souvent par l'originalité du choix de leurs objets. Ils transfigurent l'hétérogène. Et cela vaut aussi, finalement, pour les pratiques de l'enfant qui va rassembler des objets sans valeur, des déchets, des rebuts du monde des adultes et leur donner arbitrairement, souverainement, une valeur. Lui aussi, à sa manière, avec ses collections, est allégoricien et manifeste ainsi la présence de la marchandise et la critique pratique de la marchandise. Oserons-nous dire que l'enfant, le collectionneur, le chiffonnier, mais aussi Benjamin lui-même, ont en commun une même démarche, celle qui convient à un allégoricien, capable dans le secret de sa collection de donner une cohérence personnelle, singulière et mystérieuse aux rebuts et aux déchets qu'il a rassemblés. Et je terminerai sur une brève évocation de cet enfant désordonné dont parle un texte de Benjamin dans Sens unique, de cet enfant, disons, allégoricien, qui accumule un petit trésor d'objets dont lui seul connaît la valeur, comme le chiffonnier, et pour qui, rangé à la demande des parents, s'étant fait anéantir un édifice plein de marrons, je cite Benjamin, un édifice plein de marrons, de papier d'étain, de cubes en bois et de pièces de cuivre. Le regard que le collectionneur réserve aux choses méprisées et apocryphes, dit Benjamin, fait sa véritable force. Je vous remercie.
Merci. Parce que peut-être venez ici, peut-être venez te dire. Merci beaucoup parce qu'en peu de temps vous avez réussi à vraiment relever un défi qui était de rendre compte des rapports de Benjamin, de Baudelaire et du chiffonnier. Et on a donc vu combien Baudelaire était capital dans cette entreprise et aussi combien les relations de Baudelaire et du chiffonnier étaient au cœur de cette interprétation. Il est vrai que, moi je me demande en le lisant si la figure du chiffonnier du XIXe siècle n'est pas beaucoup plus compliquée que que le personnage que Benjamin utilise. Je crois que c'est ça qui fait que j'ai tendance à prendre une certaine distance par rapport à cette lecture, dans la mesure où, on pourrait apporter beaucoup d'éléments pour essayer de la nuancer. Bon, d'abord, comme je disais, mais il se trouve que c'était par hasard dans le cours d'aujourd'hui, ce rapport avec du chiffonnier avec la révolte n'est pas du tout établi. Rien ne nous dit, sinon dans la citation de Marx, que le chiffonnier est un révolté. Beaucoup d'autres, la plupart des témoignages vont plutôt dans le sens de ce que Jules Vallès montre à propos de la Commune, ou de ce que Hugo a l'air de souligner à propos de 1848. Ce premier point, je vous laisse répondre.
Oui, que la figure d'une fille chiffonnier soit dans la réalité des documents, des archives plus nuancées, j'en conviens très volontiers, mais je ne suis pas le porte-parole de Benjamin ici, j'essaie simplement de transmettre sa lecture. Oui, le chiffonnier et la révolte, tout simplement, chez Benjamin, ça vient de sa lecture du vin des chiffonniers, où il y a une forme de, non pas de, oui, de révolte, puisque le chiffonnier pris par l'ivresse rêve d'être une sorte d'instaurer un ordre social nouveau, d'être un législateur et de faire le bonheur de l'humanité. Donc le lien chez Benjamin, encore une fois, le lien entre révolte et le chiffonnier, c'est là qu'elle apparaît. Et c'est une révolte sous l'emprise de l'ivresse. Et il me semble que ce que veut faire Benjamin après la lecture de Blanqui, c'est de montrer que cette révolte vaine de l'ivresse a tout de même une valeur parce qu'elle est, elle est sans espoir, en fait. On retrouverait le thème de l'espoir. Ce que Benjamin refuse, là on entre dans un Benjamin presque métaphysique, ce qu'il refuse, c'est la consolation de l'espérance au terme du progrès, ce qui était très puissant au XIXe siècle, cette idée que chaque jour, comme dit Hugo, que j'ai cité, chaque pas, c'est un pas de Dieu, une avancée, etc. Or, chez lui, l'espérance, c'est pas une pensée facile à définir ou à présenter, mais enfin, en gros, c'est l'idée que chez lui,
plus les choses sont pires, si je puis m'exprimer ainsi, plus la, peut-être brillera au dernier moment la petite étoile de l'espérance. Donc, ce qu'il trouve dans le vin des chiffonniers, c'est pour ça que c'est le texte est central, et Adorno le voit très bien, c'est son interprétation du vin des chiffonniers. Et dans le vin des chiffonniers, on a cette révolte illusoire, cette rage qu'il attribue aussi à Baudelaire dans différents fragments. Mais bon, cela dit, encore une fois, c'est un ouvrage qui est largement laissé en fragments, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les constructions. Mais enfin, voilà, il me semble que c'est le vin des chiffonniers avec ce discours impérial. Alors, vous dites qu'il ne revient pas des barricades, j'en conviens, mais en revanche, et ça, je crois que Jules Vallès le dit aussi, ce sont souvent d'anciens, peut-être des bagnards, mais aussi des anciens grognards, vous l'avez dit, je crois, des anciens qui ont la nostalgie de l'Empire. Et ça apparaît dans le vin des chiffonniers, sauf erreur aussi, et surtout dans le texte, en prose de 1851, où c'est dit quasiment explicitement. Donc, il y a là quelque chose qui a une révolte qui n'est certes pas celle que, par exemple, Marx préconise. Ce n'est même pas une révolte qui conduit Gavroche sur les barricades, mais c'est une révolte... oui, le mot rage convient bien, une rage continue.
Oui, rage, mais qui entre dans ce grand modèle du chiffonnier et du roi, hein, beaucoup plus que révolte. Moi, j'y lis cette dialectique du chiffonnier et du roi, enfin, du bouffon et du roi, hein, puisque le chiffonnier est aussi une figure du bouffon. Hein. Ce jeu du chiffonnier et du roi, c'est comme roi qu'il est législateur. Hein,
il se veut roi, oui, il s'imagine roi, oui, il s'imagine
législateur. Roi. Oui. Alors, est-ce que c'est ça c'est quand le chiffonnier devient roi, c'est quand les philosophes régneront et quand les rois seront philosophes. C'est plutôt de ce modèle-là.
Mais c'est une illusion. Mais
comment
c'est une, oui, c'est une...
C'est une illusion, évidemment. Mais ce n'est pas pour autant une révolte, c'est ça que je dis. Ce retournement du monde, c'est cette sorte de carnaval. Le carnaval, c'est la révolte carnavalesque qui fait que le jour où les chiffonniers sont rois, mais ce n'est pas ça qui renverse le monde.
Oui, je ne pense pas que Benjamin, dans les circonstances dans lesquelles il vivait, ait cru un seul instant que cette rage était capable de transformer le monde. C'est certainement juste. En même temps, je dois avouer que la dimension bouffonne et carnavalesque du chiffonnier n'apparaît pas, en tout cas, dans ce que Benjamin a pu écrire.
Non.
C'est
non,
totalement absent. Ça.
Il ignore cette dimension qui est très présente dans...
Mais en revanche, ce qui relève de cette vision de la révolte ou de la rage, ou ce sont des petites notations comme qui appellent à un commentaire. Mais quand il dit, par exemple, qu'on tirait sur les horloges en 48, quelque chose comme si on voulait arrêter le temps officiel pour que surgisse quelque chose, quelque chose de totalement et radicalement nouveau. Mmh.
Alors, il y a un autre point. Alors, évidemment, quand on lit tous les sociologues comme Le Play, leur grande, vous l'avez entendu, je l'ai un petit peu cité, leur grande thèse, c'est le chiffonnier, c'est le petit industriel, c'est l'auto-entrepreneur. Hein, c'est le modèle de l'auto-entrepreneur. Comme il dit, il est chef de métier. Mais toute la visée de ces textes, c'est de montrer que le chiffonnier est indispensable à l'activité économique dans beaucoup d'industries, puisqu'il fournit les matières premières, et aussi qu'il gagne deux fois de plus qu'un ouvrier. Hein, tous les textes nous disent, le chiffonnier, certes, c'est un métier ignoble, mais du temps de Baudelaire, de 48 à 70, tous les textes ont l'air de nous dire que le chiffonnier gagne deux fois de plus qu'un ouvrier. Donc, ce n'est pas lui le plus misérable dans ce moment-là. Alors, évidemment, tout ça est très difficile à analyser, puisque dans les chiffonniers, il y a les chiffonniers professionnels, les chiffonniers enregistrés, les chiffonniers médaillés, et puis il y a tout un lumpen prolétariat de la chiffonnage, mais mais qui ne se distingue plus vraiment du vagabondage. Et alors, c'est là où on a l'impression que c'est plutôt de cela que Benjamin parle, hein, du chiffonnier oui. vagabond, et non pas du chiffonnier petit industriel. Et oui. alors que beaucoup des textes du XIXe siècle s'intéressent plutôt au chiffonnier comme rouage de l'industrie. Par exemple, je regardais justement dans Maxime Ducamp, le livre de Maxime Ducamp, il y a les statistiques de la police d'arrestation, c'est pour l'année 1869. Donc on a dans toutes les catégories professionnelles le nombre d'arrestations. Et les arrestations de chiffonniers en 1869 sont extrêmement faibles. On arrête pas, la police n'a pas arrêté à Paris en 1869 plus de chiffonniers que de boulangers ou de cordonniers ou d'un certain nombre de corps de métier. En revanche, elle a arrêté, je crois, 30 fois plus de vagabonds que de chiffonniers. Quand elle dit qu'elle a arrêté un nombre très réduit de chiffonniers, on peut supposer que ce sont des chiffonniers enregistrés, alors que dans les vagabonds, il y a toute une autre population. Donc ça complique là aussi beaucoup les choses, puisque le chiffonnier dont il est question dans la plupart des textes, ce n'est pas le vagabond.
L'interprétation, comment dire, entrepreneuriale et économique du chiffonnier, oui, elle apparaît même dans un texte que vous avez certainement évoqué, qui est Louis-Sébastien Mercier, le tableau de Paris, où il y a une sorte de réhabilitation du métier ignoble, de chiffonnier, où il dit, mais ce papier, ce beau papier sur lequel on garde les œuvres de l'esprit et qui les rendent immortelles, c'est grâce au chiffon des chiffonniers qu'ils sont préservés. Alors, écartons le cas de Benjamin, mais en revanche, Adorno a saisi, me semble-t-il, je suis allé trop vite sans doute, mais a saisi quelque chose de très important quand il oppose dans sa critique le mendiant qui ne demande rien, enfin, qui ne fait rien et qui est simplement là comme une sorte de suppliant, dit Peggy, et le chiffonnier qui, lui, est totalement intégré au cercle utilitaire de la marchandise. Et Adorno met le doigt très, très justement, me semble-t-il, sur cette transformation qui fait d'une figure comme le mendiant qui, dans les sociétés traditionnelles, est admise et, j'ose pas dire respectée, mais comprise, et le chiffonnier qui est méprisé socialement, mais qui est comme une sorte, comme vous disiez, de petit entrepreneur ou de freelance, qui lui est intégré au règne de la marchandise.
Oui.
Qui sait la valeur d'un chiffon ou d'un morceau de fer.
C'est-à-dire qu'il se trouve que pendant cette période qui est celle de la vie de Baudelaire et celle que Benjamin analyse, pendant une brève période, le chiffonnier n'est pas un mendiant. Avant, il l'est. Avant la révolution industrielle, il est un mendiant, il ne se distingue pas véritablement du mendiant. Et une fois qu'on a inventé la pâte à papier à base de bois, ben il redevient un mendiant à la fin du XIXe siècle. Mais il se trouve que c'est ça qui est aussi une difficulté, c'est que précisément dans cette période-là, c'est la période où il n'est pas véritablement un mendiant. Qui se termine assez vite,
oui.
Hein, puisqu'il n'est plus intégré le chiffonnier n'est plus intégré au circuit de la marchandise à partir de la fin du XIXe siècle. Le ferrailleur le reste.
Oui,
longtemps. Le ferrailleur, on pourra encore faire fortune dans la ferraille jusqu'aux années pendant la guerre, hein, pendant l'occupation et dans les années 60. Il n'y a plus que la ferraille, mais les autres, le reste de la récupération. Ce n'est plus que de la survivance.
C'est peut-être celle-là que Benjamin a connue ou a vue dans Paris, je ne sais pas.
De la ferraille,
oui.
Plus que du collectionneur.
Oui,
ferrailleur de la période des années 30 est plus proche du chiffonnier du 19e siècle que le collectionneur, au fond.
Oui. Oui, il est possible que la vision, disons, sociologique de Benjamin soit gauchie ou faussée par sa vision, par son travail purement livresque. J'ai commencé par la photo très fascinante de Benjamin dans la Bibliothèque nationale, où le Paris qu'il connaît, c'est d'abord le Paris des livres du 19e siècle, même s'il circule un peu dans Paris, mais la Bibliothèque nationale lui a servi de havre, mais c'est là qu'il a construit sa vision. Il cite d'ailleurs tous les textes que vous avez mentionnés, Frégier, tous ces documents qu'il insère dans une sorte de tentative de sociologie du Paris du Second Empire, mais sans systématicité non plus. C'est un texte assez fascinant à cet égard, parce que c'est ni une étude sociologique, ni du pur Benjamin. Ce qui fait que c'est un texte, le Paris du Second Empire chez Baudelaire, qui court effectivement le risque de ce que j'ai appelé l'esthétisation, ou la figure du flâneur. Je suis frappé de voir nombre de commentateurs attribuer à Benjamin et à Baudelaire un éloge du flâneur, alors que, me semble-t-il, Benjamin critique le flâneur qui reste prisonnier des passages couverts de leur luxe, au lieu de s'exposer au risque de la rue assourdissante. Oui.
Moi, j'ai l'impression, au fond, que peut-être que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une rupture très forte après Baudelaire, et qu'au fond, quand on le lit à partir du surréalisme, puisque c'était au fond à partir d'un certain nombre, à partir du marché aux puces d'André Breton, j'ai l'impression que ça crée une sorte de malentendu sur le chiffonnier du 19e siècle. C'est un autre monde que celui des puces, que celui de
la brocante
et des puces.
C'est vrai que
où allaient les surréalistes, c'est vraiment tout autre chose.
Et il faut bien se rappeler de ce fait que Benjamin a connu une période qu'on pourrait dire surréaliste, enfin, très influencée par le surréalisme, même s'il a dépassé cela, notamment avec son essai sur le surréalisme, justement. Mais il y a toute une période dans laquelle il est très sensible à au prestige de l'objet bizarre. Peut-être qui apparaît chez Breton, enfin, c'est bien connu. Donc ça, c'était effectivement... Et même s'il a abandonné cette option surréaliste, ça reste peut-être dans son esthétique, dans son approche du chiffonnier tel qu'il relit rétrospectivement dans les textes du livre.
En tout cas, il est certain que ce sont des discussions tout à fait fondamentales pour comprendre la place de Baudelaire dans ce milieu du 19e siècle, et qu'il faut revenir absolument à ces textes-là. Donc, merci beaucoup de nous avoir présentés si clairement.